sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibour avec vous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Comme chaque jour, nous ferons le point sur la campagne électorale aux États-Unis. Les deux candidats se focalisent sur les états décisifs avant leur duel télévisé prévu demain soir. C'est le choc au Nigeria après la répression sanglante hier et la situation reste tendue à Lagos. Au moins 9 morts à Conakry suite aux violences post-électorales. Nous ferons le point avec notre correspondant sur place. En Côte d'Ivoire, au moins 7 morts dans des affrontements près d'Abidjan. Tout de suite, le journal et nous commençons par les élections aux États-Unis. De 2 semaines de la présidentielle du 3 novembre, les deux candidats intensifient leur campagne. Tous semblent se focaliser dans les États qui seront déterminants, comme la Pennsylvanie. Donald Trump y était en campagne hier et Barack Obama lui emboîte le pas ce mercredi pour le compte de Joe Biden. Les précisions de John Linden.
Barack Obama est attendu pour son premier événement de campagne 2020 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il vient apporter son appui à son ancien vice-président dans cet état pivot et crucial pour les deux candidats. Ces 20 grands électeurs ont contribué à placer le président Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016, faisant basculer la Pennsylvanie dans le camp républicain pour la première fois depuis 1988. Hier soir, lors d'un rassemblement dans ce même état, Donald Trump a de nouveau tiré sur l'ancienne candidate démocrate Hillary Clinton. Il a également intensifié la pression sur le procureur général William Barr pour qu'il lance ses enquêtes sur Joe Biden. Le candidat républicain a également tenu à souligner que son adversaire démocrate n'est pas le mieux placé pour faire face au COVID-19 qui semble décidément être devenu l'un des thèmes majeurs de cette campagne.
Biden retardera les thérapies, reportera le vaccin, prolongera la pandémie, fermera vos écoles, fermera notre pays. Et au fait, la Pennsylvanie a été fermée assez longtemps. Demandez à votre gouverneur d'ouvrir la Pennsylvanie.
En attendant, des millions d'Américains vont suivre demain soir le très attendu débat entre les deux candidats à la présidence des États-Unis. Le comité chargé des débats a d'ailleurs changé les règles du jeu pour éviter la cacophonie du premier duel télévisé. En Floride et en Alaska, les responsables électoraux ont contacté les forces de l'ordre hier après que des électeurs inscrits avaient signalé avoir reçu des courriels leur intimant l'ordre de voter pour Donald Trump. Une enquête est en cours. Pas moins de 35 millions de votes anticipés ont déjà été exprimés en personne ou par la poste. La moyenne des sondages nationaux place le démocrate Biden en avance de près de 9 points, selon Real Clear Politics. Mais rien n'est joué dans les États qui seront déterminants, comme la Floride, la Caroline du Nord, l'Ohio et le Wisconsin, où les jeux sont très serrés entre les deux candidats.
La présidentielle américaine verra à l'œuvre d'importants acteurs, les agents électoraux locaux. Déployés dans les bureaux de vote, ils s'assurent que les électeurs ont le droit de voter, suivent le déroulement du scrutin et rendent compte des résultats. Veronica Balderas Iglesias de la VOA se penche sur leur rôle. Le récit est de Lionel Gaïma.
Cette période de pandémie, les barrières en plexiglas, les masques et désinfectants pour les mains sont des outils essentiels pour la santé mais aussi pour la démocratie américaine. Angie Maniglia-Turner est la plus haute responsable électorale de la ville d'Alexandria, tout près de Washington.
Nous avons ajouté des marqueurs de distanciation sociale pour nous assurer que tout le monde respecte l'écart des 2 mètres. Nous demandons à tous les électeurs de porter des masques lorsqu'ils entrent dans le bureau de vote. Nous utilisons uniquement des stylos à usage unique, des dossiers de confidentialité jetables.
Ce sont les fonctionnaires locaux qu'elle supervise qui font le travail critique de dépouillement des votes et des bulletins de vote par correspondance. À la mi-octobre, près de 17 000 personnes ont déjà voté en personne. Fatima Matten explique pourquoi elle a préféré voter par anticipation.
Je ne voulais pas risquer que mon vote se perde dans le courrier ou que je remplisse le mauvais formulaire ou quelque chose du genre.
En dehors de ces votes anticipés, un grand nombre votera en personne ou par courrier. La ville d'Alexandrie a formé 600 agents électoraux qui serviront dans 30 bureaux de vote. Le jour du scrutin, le dépouillement commence à 19h, dès la fermeture des bureaux de vote. Ici, les bulletins de vote anticipés peuvent être pré-traités pour obtenir des résultats plus rapidement. Justin Cornshield, greffier adjoint de la ville d'Alexandria.
Vérifier que l'électeur a tout fait correctement, que le bulletin de vote a été marqué et retourné avec toutes les signatures nécessaires.
Dans d'autres États, comme le Wisconsin ou la Pennsylvanie, le traitement est différent car les bulletins de vote ne sont pas ouverts avant le jour du scrutin, ce qui pourrait entraîner des retards dans l'appel du vainqueur. En Virginie, les agents électoraux payés en moyenne $150 sont également formés pour surveiller les urgences ou les perturbations. Steve Lamb, directeur général des élections à Alexandria.
Vous ne pouvez pas vous placer à moins de 12 mètres de l'entrée d'un bureau de vote. Si quelqu'un harcèle les électeurs dans ce secteur, je leur dirai qu'ils doivent dégager. Mais si cela va plus loin, je ferai appel à la police pour y aider.
Dennis Blackburn est aussi responsable chargé des élections.
Nous ne sommes pas ici pour représenter un parti. Nous le faisons au nom de notre État et de nos concitoyens. Peu importe pour qui vous votez, nous voulons simplement nous assurer que vous êtes en mesure de voter en toute sécurité.
En 2018, l'administration des élections a révélé que la moitié des employés des bureaux de vote américains avaient 61 ans ou plus, un groupe plus à risque de COVID-19. Ici à Alexandria, on dit que prendre ce risque en vaut la peine.
Au Nigeria, la tension persiste à travers le pays. Le gouverneur de l'État de Lagos a reconnu la mort d'un manifestant à l'hôpital où des blessés ont été acheminés. Le point avec Abdourahman Dia.
Babaje Sanwo-Olu tente de minimiser l'incident en parlant de cas isolés. Il a assuré que les autorités enquêtaient pour déterminer si la victime faisait partie des manifestants contre les violences policières qui se sont transformées en une contestation contre le régime et la mauvaise gouvernance. Des témoins et l'ONG Amnesty International assurent que la répression hier dans la capitale économique a fait plusieurs victimes sans pouvoir pour l'instant confirmer leur nombre exact. Les manifestants ont été dispersés par des tirs à balles réelles après l'entrée en vigueur d'un couvre-feu total pour faire taire la contestation populaire qui gagne le pays depuis plus de 10 jours. L'armée a nié être à l'origine de cette fusillade. Plusieurs bâtiments ont été incendiés dans différents quartiers ce mercredi. La police a bloqué plusieurs rues et l'atmosphère est très tendue. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, ne s'est pas encore exprimé au sujet de la fusillade, alors que les appels à sa démission se multiplient sur les réseaux sociaux.
En Guinée, des heurts ont éclaté entre des jeunes supporters de l'opposant guinéen Sélou Dalane Diallo, qui s'est autoproclamé vainqueur de la présidentielle, et les forces de l'ordre dans plusieurs bastions de l'opposition dans la banlieue de Conakry. Il y aurait 10 morts, dont 2 policiers, selon le ministère de la Sécurité. Le président sortant et candidat, Alpha Condé, a appelé au calme. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Une partie des résultats sera connue ce soir dans un contexte de tension politique. Plusieurs quartiers de Conakry ont enregistré des scènes de violence et de destruction de biens. 9 personnes ont été tuées à Conakry et à l'intérieur du pays, selon un communiqué du gouvernement guinéen. Dans un message publié sur Facebook, le président Alpha Condé appelle les Guinéens au calme et à la sérénité. Si la victoire me revient, je reste ouvert au dialogue et disponible à travailler avec tous les Guinéens, rassure le candidat du RPG arc-en-ciel qui brigue un 3e mandat. Autre message, l'état-major général des armées dit avoir constaté avec regret la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos et de publications subversives visant, selon lui, à ternir l'image de l'armée guinéenne. À Conakry, des manifestants qui revendiquent la victoire de l'opposant Sélou Dalane Diallo ont érigé des barricades, perturbant ainsi la circulation dans plusieurs quartiers de la banlieue. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
À 10 jours de la présidentielle en Côte d'Ivoire, au moins 7 personnes sont mortes et une quarantaine ont été blessées dans des affrontements intercommunautaires qui durent depuis lundi dans et autour de Dabou, à 50 kilomètres à l'ouest d'Abidjan. Un bilan donné par le préfet, Rémi Nzikanga, qui a affirmé qu'il y avait aussi une quarantaine de blessés. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a assisté à la prestation de serment au Parlement des 3 juges qu'il a nommés au Conseil constitutionnel en juillet. Cette cérémonie a été boycottée par la coalition fidèle à l'ancien président Joseph Kabila et majoritaire au Parlement. Les autorités au Soudan ont bloqué les ponts menant au centre de Khartoum et renforcé la sécurité après des appels à manifester contre les difficultés économiques. Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a dit espérer que le Soudan normalisera ses relations diplomatiques avec Israël rapidement après que les États-Unis ont annoncé lundi le prochain retrait du Soudan de la liste noire des États soutenant le terrorisme.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La France a rendu aujourd'hui un hommage national à Samuel Paty, le professeur d'histoire décapité vendredi dans un attentat qui a bouleversé la population. 7 personnes, dont 2 mineurs, ont été présentées à un juge pour complicité d'assassinat terroriste. Lutte contre la pandémie de coronavirus dans le monde, l'Irlande est le premier pays européen à reconfiner toute sa population ce mercredi. Les signaux sont au rouge aussi en Italie, où la Lombardie et la Campanie vont instaurer un couvre-feu à partir de jeudi soir. La situation est encore plus mauvaise en France, qui a recensé hier 163 nouveaux décès et plus de 20 000 nouveaux cas. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. On connaît l'affiche de la finale de la Coupe de la Confédération. Le Final Four, choisi par la CAF pour terminer la compétition, a désigné ses finalistes au Maroc. Le club égyptien de Pyramids FC et celui marocain de Hassania. Hier, Pyramids a battu les Guinéens de Horoya AC 2-0. Lundi, dans la première demi-finale, la Renaissance sportive de Berkane a battu l'autre club marocain, Hassania d'Agadir, 2-1 à Casablanca. Mohamed Aziz a ouvert le score pour les Berkanais à la 21e minute sur pénalty, avant qu'Imad Kimawi n'égalise à la 30e minute. C'est finalement à la 60e, encore sur pénalty, qu'Imad Kimawi a donné un avantage définitif à Berkane, qui se projette ainsi en finale. Cette finale qui aura donc lieu le dimanche 25 octobre au stade de Rabat. C'est fini entre Francis Kimanzi et le Kenya. Dans un communiqué, la Fédération kenyane de football a annoncé le départ de son sélectionneur 48 heures après la réélection du président Nick Mwendwa. Francis Kimawi a dirigé 10 matchs à la tête du Kenya avec à la clé 3 matchs nuls, 5 victoires et 2 défaites. Le Kenya fera face en novembre aux Comores en double confrontation dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Dans leurs 2 précédents matchs, les Harambee Stars ont fait match nul contre l'Égypte et le Togo et compte donc 2 points. En Europe, le Paris Saint-Germain du Sénégalais Idrissa Ganagé, finaliste sortant de la Ligue des Champions, a revécu hier une soirée noire contre Manchester United, qui s'est donc imposé en toute fin de match, 2-1. Cette défaite place les Parisiens dans une position inconfortable avant 2 déplacements en 2 semaines chez les Turcs de Başakşehir et en Allemagne chez le RB Leipzig. La Lazio Rome est sortie victorieuse de sa confrontation avec le Borussia Dortmund 3-1, 2 mois après le traumatisme de l'élimination 8-2 contre le Bayern Munich. Lors de la dernière édition, le FC Barcelone a lui réussi son grand retour en surclassant Ferencváros 5-1. Entre autres résultats, un but partout entre Rennes et Krasnodar, 2-0 pour la Juventus Turin devant le Dynamo Kiev, 0-0 entre Chelsea et le FC Séville.
Merci Bagassi. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Nigeria, polémique autour du bilan de la répression sanglante à Lagos, Abuja, Kano et Ibadan. Certains avancent le chiffre de 41 morts et d'importants dégâts matériels. L'armée est accusée d'avoir tiré à balles réelles sur les manifestants à Lagos. Des compagnies aériennes comme Delta et Kenya Airways ont annoncé l'annulation de leurs vols sur le Nigeria. Le reportage à Abuja de notre correspondant Gilbert Tamba.
La journée du mardi d'hier aura été la journée la plus meurtrière depuis que les manifestations contre les violences policières ont commencé le 8 octobre au Nigeria. Des milliers de Nigériens, notamment des jeunes, descendent chaque jour dans les rues pour protester contre le gouvernement fédéral. Réaction d'une manifestante.
Ils utilisent des gaz lacrymogènes contre nous. Nous avons faim. Nous n'avons pas d'argent pour payer nos frais de scolarité. Les femmes souffrent et cela fait longtemps que nous souffrons.
À Lagos, ce matin, les violences ont repris. Les manifestants ont été dispersés par des coups de feu. Une station de télévision TVC appartenant à une personnalité du parti au pouvoir a été incendiée, ainsi que la maison de la mère du gouverneur de Lagos, entre autres. Ces incidents surviennent en réponse à une attaque des éléments de l'armée nigérienne contre les manifestants sur un péage de la capitale économique, faisant plusieurs blessés selon des témoins.
On a reconnu ceux qui étaient là. Ils étaient en tenue militaire. C'étaient des militaires. Nous étions couchés au sol, levant nos drapeaux en leur disant que nous manifestons pacifiquement. Malgré tout, ils tiraient contre nous. Ils ne le faisaient pas pour nous disperser, mais pour nous tuer.
Une enquête est ouverte pour tenter de déterminer qui aurait donné l'ordre de tirer sur les manifestants. Ce matin, le gouverneur de l'État, Babajide Sanwo-Olu, a pris la parole pour appeler au calme.
Je lance un appel à nos citoyens, particulièrement nos jeunes, pour leur dire que je suis pour vous, je suis avec vous. Je ressens votre peine et je comprends que vous n'êtes pas content de ce qui s'est passé hier nuit. Je veux vous dire encore une fois qu'en tant que votre gouverneur, je ferai tout pour assurer que chaque vie compte.
À Abuja, c'est un calme précaire qui règne. Beaucoup de résidents de la capitale fédérale ont préféré rester chez eux. Le bilan des manifestations est lourd au lendemain de ce qu'on pourrait appeler des mardis noirs. On parle des 41 morts au total dans les états de Lagos, Abuja, Kano et Ibadan. Des commissariats de police mis à sac dans plusieurs endroits, des véhicules incendiés à Abuja comme dans beaucoup d'autres États. La situation reste tendue et 9 États sur les 36 ont décrété un couvre-feu pour restaurer le calme. Certains États ont aussi constitué des commissions d'enquête pour faire le point sur les crimes commis par la brigade de répression des vols, une des demandes des manifestants. Olu Adegboruma est membre de la commission de Lagos. Il regrette l'attaque contre les manifestants à Lagos.
Nous n'avions pas eu de violence depuis dans ce centre commercial de Lekki. C'est donc triste que ce lieu soit transformé en un foyer de violence perpétrée contre des manifestants par les agents de sécurité.
Le gouvernement fédéral est critiqué pour sa manière avec laquelle il gère la situation depuis le début. Le conseiller du président nigérien sur les affaires du Delta du Niger appelle les manifestants à la table de négociation. Ita Enang.
Je joins ma voix pour demander à tous les Nigérians qu'il est temps de quitter les rues. Vous avez toujours le droit de protester dans le respect de la loi, mais il est temps de venir à la table des négociations pour qu'ensemble nous parlions des problèmes en question.
Les autorités fédérales ont approuvé le déploiement des éléments de la police anti-émeute et de l'armée dans tout le pays afin de protéger les Nigérians et des biens. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu le 31 octobre. L'opposition, qui laisse planer le doute sur un boycott du scrutin, a appelé le 15 octobre ses militants à une campagne de désobéissance civile et à boycotter les opérations électorales. Depuis plusieurs jours, des manifestations, parfois violentes, ont lieu dans plusieurs localités. Bagassi Koura a joint Maître Abdoulaye Ben Mété, député du RHDP, qui dit ne pas parler au nom de son parti.
De mon point de vue, la campagne s'est déroulée très bien. C'est vrai que par endroits, il y a
l'expression de cette mauvaise foi de partis d'opposition qui, en lieu démocratique attendu de ces partis d'opposition, on soit la voie de la violence, la voie de l'insurrection qui, de notre point de vue, contraste véritablement avec les choix démocratiques qu'ils allèguent et derrière lesquels ils sont se réfugier depuis le moment. Nous avons 4 candidats en liste, dont le favori, donc le président Alassane Dramane Ouattara, qui donc, est en train de battre campagne présentement, dans de bonnes conditions. C'est lieutenant que nous sommes sur le terrain. Moi, je suis actuellement dans ma circonscription électorale, donc qui est Kanou commune sous structure. Nous sommes en train d'expliquer à nos concitoyens le programme d'avenir que constitue effectivement le programme du candidat à Alassane Ouattara.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que ce troisième mandat de Alassane Ouattara est anticonstitutionnel?
Vous savez, depuis un moment, et c'est dommage, nos concitoyens s'érigent en constitutionnalistes ou même en juristes. J'ai eu l'honneur en tant qu'avocat d'assurer la défense donc du candidat à Alassane Ouattara devant la Chambre, devant la Cour constitutionnelle. Je pense que les éléments que nous avons invoqués sont suffisamment éloquents pour traduire que le droit est effectivement du côté du président de la République dans sa volonté de candidater. En réalité, c'était un refuge parce que l'opposition sent sa faiblesse devant ce ouragan que constitue notre candidat. Et je pense qu'il cherche, parce que l'opposition n'a pas d'autre choix. L'opposition s'est inscrite véritablement dans et visiblement dans une poursuite insurrectionnelle, et c'est parce qu'ils s'étaient perdus, c'est parce qu'ils n'ont pas effectivement eu l'opportunité qu'ils s'arrosent le droit de vouloir discréditer une élection qui est de bonnes conditions.
Alors, vous avez dit que votre candidat, Alassane Ouattara, est favori. Est-ce que vous ne craignez pas que ces manifestations puissent ternir un peu sa victoire au cas où il gagne?
Mais justement, c'est justement cela, le jeu de l'opposition. Mais je pense que nous sommes dans un jeu démocratique. La démocratie, c'est l'expression de la volonté du peuple par la voix des urnes. Et vous savez, dans un processus démocratique, quelle légitimité vous pouvez accorder à des attitudes d'insurrection? Parce que l'insurrection, les violences qui sont en cours en ce moment, contrastent véritablement avec le jeu démocratique. Je pense que ce sont manifestement des rebelles. C'est une rébellion, c'est une insurrection. Et je pense que chacun gagnerait mieux. Plutôt que de discréditer le processus électoral en cours, mais plutôt de discréditer l'opposition qui s'adonne effectivement à ces actes d'insurrection.
C'était Maître Abdoulaye Ben Mété, avocat et député du RHDP en Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM. VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Le Cameroun affirme que plus de 120 000 armes à feu illégales circulent dans le pays, alimentant un conflit séparatiste et les attaques de Boko Haram. Lundi à Yaoundé, des responsables camerounais et de l'Union africaine ont marqué le mois de l'amnistie africaine. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, le récit est de Nathalie Barge.
Le mois de l'amnistie africaine se tient normalement en septembre, mais a pris du retard à cause de la pandémie de coronavirus. Martin Ania, 29 ans, ancien combattant séparatiste, a été salué comme une réussite lorsqu'il s'est présenté devant les délégués africains. Ania a rendu ses armes en janvier et a été intégré au centre de désarmement, démobilisation et réinsertion du Cameroun dans la ville de Bamenda.
Nous apprenons la base de l'informatique. Nous apprenons à élever les animaux. Nous avons également certaines activités et autres cours auxquels nous assistons, comme l'instruction civique, des cours d'éducation de base pour ceux qui sont de la brousse et ne savent ni lire ni écrire. En fait, nous sommes mieux ici au centre DDR que lorsque nous étions dans la brousse.
Ania fait partie de quelques 400 combattants séparatistes et anciens membres de Boko Haram qui, selon le Cameroun, ont remis leurs armes et ont été graciés. Galim Eugene, le représentant du Cameroun au Conseil économique et social de l'Union africaine, affirme qu'au moins 120 000 armes illégales sont en circulation au Cameroun contre seulement 25 000 en 2013.
Ceux qui portent ces armes ne les portent pas pour améliorer le développement d'un pays. Le plus souvent, c'est pour détruire ce qui a été construit. Et vous connaissez les conséquences. Cela pourrait prendre des années pour reconstruire ce qui a été détruit. Porter des armes légères, comme c'est le cas actuellement dans le nord-est, le sud-est et l'extrême nord, ce n'est pas très bon.
Ivo Richard Fang, chef adjoint de la branche des armes conventionnelles du Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies, a fait savoir que l'ONU soutient le projet Silencing the Guns, autrement dit faire taire les armes, lancé par des organisations de la société civile africaine en 2017.
Cela est évident par les niveaux élevés de crimes, de violences armées et bien sûr des conflits qui ont lieu dans de nombreuses parties de la sous-région. Donc, sans les flux d'armes illégales, l'intensité des conflits ne sera pas ce que nous voyons.
Le général Badreddine Elamine Mohamed est secrétaire exécutif du Centre régional sur les armes légères dans la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique. Il affirme que 40 millions d'armes circulent illégalement en Afrique et que les pays les plus fragilisés sont la Centrafrique, la RDC et la Somalie.
La première menace à la sécurité continentale ou à la sécurité de chaque pays est la prolifération des armes légères. La prolifération des armes est due à l'absence de développement, à des problèmes de la vie quotidienne, à une mauvaise gouvernance. Il y a beaucoup de fuites dans la gestion ou le contrôle des armes légères par État. Nos frontières sont poreuses et difficiles à contrôler.
L'Union africaine a lancé l'initiative du mois de l'amnistie en Afrique en 2017 pour encourager les gens à rendre les armes illégales. Cette année, 7 pays africains ont expérimenté l'initiative, mais souvent la majorité des porteurs d'armes sont des civils qui hésitent à les remettre à cause de leur ignorance ou simplement par peur.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Il y a de cela 7300 ans, la mutation d'un seul gène d'hémoglobine, une composante du sang, s'est opérée au sein d'une population vivant dans la région méditerranéenne et en Afrique, dans les zones de prévalence du paludisme. Les individus porteurs de ce gène muté étaient plus susceptibles de survivre au paludisme, une adaptation qui a aidé à préserver l'espèce humaine. Mais les personnes nées avec deux de ces gènes, un de chaque parent, souffrent de la drépanocytose. Vos globules rouges prennent la forme d'une fossile ou d'un C dans votre système sanguin, explique Brett Guiroir, pédiatre et amiral dans le service américain de santé publique, actuellement secrétaire adjoint au ministère américain de la santé et des services humains. Cela peut être dû à certaines circonstances ou se déclencher par surprise, et cela cause beaucoup de problèmes. Certaines des choses que vous observez dans la petite enfance sont des crises de douleurs extrêmes dans les os, l'abdomen ou d'autres endroits. En plus, vous pouvez être victime d'accidents vasculaires cérébraux. Cela peut aussi causer des sérieux dommages à vos organes et votre système immunitaire. Ces dommages à votre système immunitaire arrivent très très tôt. Si bien que les enfants n'ayant pas accès aux soins appropriés peuvent mourir d'infections bactériennes très rapidement. 75% des cas surviennent en Afrique subsaharienne où, chaque année, 300 000 enfants naissent avec cette maladie. 80% meurent avant leur 5e anniversaire. Ce mal ne disparaîtra pas de lui-même, a dit l'amiral Guiroir. Si nous regardons ailleurs, rien ne changera. Mais si nous nous concentrons sur ce qui doit être fait, ce que les gens ont besoin qu'on fasse. Alors nous pouvons changer le monde dans un très bref délai.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.